Et oui, ce soir, je suis bien avec Anna Serra, qui est mon invitée, et pendant 55 minutes, nous allons essayer de faire un condensé de son travail prolifique. Bonsoir Anna.
Bonsoir Béatrice.
Anna Serra, mon invitée de ce soir, est une jeune poète née en 1988 et déjà à son crédit une œuvre abondante. J'ai compté 8 livres, ce qui est fort impressionnant. 8 livres, sans compter les invitations nombreuses dans les festivals et autres événements poétiques. Vous ne la voyez pas, mais Anna est pleine d'allant, de vitalité, pleine d'initiative, généreuse. Et j'oserais même dire qu'elle incarne, qu'elle est la vie même. Vous l'entendrez, Anna a parfois une petite pointe d'accent, car elle nous vient du Languedoc catalan. Et avant de démarrer l'entretien, voici les annonces relatives aux activités de l'association Les Mots d'Azur. Retenez bien cette date, chers auditeurs. Le vendredi 13 décembre 2024 à 19h, le duo poétique Arcturus donnera à entendre ses textes au château de Moinsartou, dans le cadre des Vendredis au château organisés par l'association Les Mots d'Azur. Revenons à mon invitée, Anna Serra. Sur votre site, Anna, vous vous présentez ainsi. Poète, parce que je reconnais l'existence du vent qui modèle l'argile du sens avec ma main. Parce que je suis amoureuse. Surtout parce que je suis sur un fil. Dans ce travail fou d'échapper sans cesse aux catégories pour apercevoir quelque chose de vrai entre un dévoilement-voilement permanent, je perds mes identités dans le faire du dire et me repère vers la route d'un sommet pour revenir avec un goût du jeu de l'échange plus cosmique et très sérieux. Plus le jeu est sérieux et plus le rire est extatique. Je me démesure dans l'exploration des étages et ramène le chant polyphonique de mon âme en me reliant toujours plus sensuellement et sensoriellement à la terre qui est toujours l'autre, au commun de l'expérience grâce aux mots. J'ai lu ça et je le relève comme une profession de foi et je relève aussi quelques mots qui me semblent des mots clés dans votre cheminement, cosmique, démesure, grâce et puis bien sûr les mots. Sans oublier quand même, sensuellement et sensoriellement, et puis le constat, je perds mes identités. Quand je lis cela, il me vient à l'esprit que vous pratiquez l'écriture et plus largement l'expérience poétique comme un exercice de transe pour, un peu à la manière des chamans, aller chercher dans un monde invisible dont on perçoit pourtant la présence, quelque chose à nous rapporter, à nous faire entendre et lire. Ce n'est que mon impression. Est-ce que je me trompe, Anna ?
Merci beaucoup d'avoir relevé ces mots clés, cette transe. C'est cet aller-retour entre ce que je reçois d'informations que je mets sur la table et ce que je mets sur la table de mots m'est renvoyé. Et il y a un aller-retour entre inconscient et conscient. Et le poème est comme une trace trans de cette liberté que le poème captive dans un devenir. Voilà. Une trace trans d'une liberté qui est captivé par un devenir. C'est vraiment pour moi l'expérience du poème. Je pourrais même dire que c'est l'écrire et le dire, le pulser et donc le planter. Le planter pour ajouter du vibrant au vibrant. Et tout cet acte-là d'aller-retour est ce que j'appelle une forme de transe. Et toucher un état second, ça veut dire... pour moi, libérer un peu plus d'inconscient, libérer le serpent qui se mord la queue, le sortir de l'amalgame et libérer des forces de l'amalgame et leur donner une voix d'expression, de symbole, la voix du poème. Voilà.
Parmi les choses que j'ai relevées, vous dites aussi, Anna, la poésie replace son auteur et son lecteur à sa juste place dans le vivant. Alors pour moi, c'est une évidence, mais je trouve quand même cette affirmation très forte. et à double titre. Parce que aujourd'hui, qui se préoccupe de comprendre en profondeur ce qu'est le vivant? Et c'est peut-être parce que justement, on ne veut pas le comprendre, qu'on en est là où on en est aujourd'hui avec tous les problèmes que l'on connaît, écologiques et autres. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus pour nos auditeurs ce rapport du poète, mais aussi de l'humain au vivant?
Être replacé, c'est ce que je souligne dans l'expérience d'écrire, c'est se remettre à disposition d'une écoute de soi qui va aller jusqu'à son soi-monde et qui va venir créer des interactions entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est dehors. Ce monde qui est à l'intérieur de nous est un monde vibrant, fait d'intuition, d'images. Je dis vibrant plutôt que vivant, parce que le vibrant inclut aussi ce qui est non vivant, mais qui vibre encore. Voilà. Le poème, c'est rentrer dans un état d'écoute de tout ce vibrant qui nous parcourt, et c'est rentrer en communication, et je dirais même en reconnaissance. C'est reconnaître que tout parle, que tout nous atteint, que tout est sensible, et que tout sur notre être est sensible, pour citer Nerval. Et c'est cet échange vibrant, pour le capter, il faut être à la bonne place intérieurement.
Vous avez une expression, vous dites que vous proposez des poèmes pulsés. Pouvez-vous développer ou expliquer un petit peu ce que vous entendez?
Oui, volontiers. Pulsés, si j'inverse les lettres, cela donne pleurs au pluriel. Et si j'en change une, ça fait puiser. Pulser, pleure, puiser. On a là le rythme de la pulsation, le flux de l'émotion des pleurs et l'idée d'une source à laquelle puiser. Et rien que pour ça, ce mot est un terme clé pour situer la poésie que je cherche et qui est aussi celle qui pulse avec le pouls du cosmos, c'est-à-dire de la terre au ciel et de la ciel à l'éther. Et voilà, mettre son pouls disant le poème, pulsant le poème, dans le pouls de l'étendue. Essayer d'être dans cette conscience d'un cercle qui s'étend, voilà, jusqu'à pulser de la terre au ciel et du ciel à la terre. Et pulser, cela vient aussi de pulsar, donc ce qui reste d'une étoile quand elle s'est effondrée. C'est son cœur de neutrons qui tourne très vite sur lui-même et émet des ondes radio. Et on a cru longtemps que c'était des ondes d'extraterrestres, jusque dans les années 70, jusqu'à ce qu'on réalise que c'était la survivance d'une étoile qui a explosé. Et donc cette idée de résurrection ou de survivance qui tourbillonne. Le tourbillon, c'est l'ivresse. Et elle est émettrice, cette ivresse. Elle émet une lumière qu'on appelle le métronome de l'espace et qui invite à lui donner notre parole. Voilà. Donc, pulsar, pulser, puiser, pleure. Pour tout ça, j'ai aimé proposer comme de nombreux et nombreuses poètes, poétesses, un mot qui situe la poésie à un endroit qui a déjà été situé par Poésie Action, Poésie Performance, mais c'est encore un autre endroit qui me permet de parler de l'étendue et qui me permet de parler du pouls, de l'oralité du texte.
Alors pouls, oralité, oralité, voix, corps, c'est une dimension aussi très importante dans votre travail. Pour illustrer cette pulsation, je vais vous demander de lire cet extrait de « Notes poésie pulsée » qui se trouve dans votre livre intitulé « Je suis amoureuse » qui est paru aux éditions Lanskin.
Ce qui anime le poète pulsar, c'est la révolte d'être repoussé parce qu'inconsommable, d'être soumis au diktat de la compréhension. C'est d'entendre des bouches qui utilisent les mots pour modeler les esprits. Tant de carences en spiritualité empêchent l'être, ou esprit collectif, de se rejoindre dans une même région impossible à cartographier. Cette région où l'inconscience est infiniment absorbée par un souffle qui précède le langage, où l'ego est renversé. L'individualisme n'est pourtant pas l'ignorance du nous à réaliser, du nous comme le sentiment impersonnel qu'il faut trouver en soi, celui de l'amour. La poésie pulsée incarne la révolte face à une mise à mort de tous ceux, toutes celles qu'on qualifie d'inutiles, de celles et ceux déterminés à rester libres dans leur expression, mutilés, assassinés ou emprisonnés parce que le don du rien est une menace à la dictature. Le poète Pulsar est semblable à l'étoile à neutrons du même nom, issue de l'explosion de la supernova et de l'effondrement du cœur de celle-ci, et qui tourne très vite sur elle-même. Elle pulse, c'est-à-dire qu'elle change de luminosité par cycle. Cette rotation rappelle le don de la formule motrice et le sens du signal perdu dans l'infini, et même l'ivresse, celle de perdre la tête dans le multi-univers.
Alors, vous ne le voyez pas, chers auditeurs, puisqu'on est à la radio, mais Anna gestualise la rotation avec ses mains. Alors, merci pour cette lecture. Et puis, nous en profitons pour saluer Catherine Tournet, l'éditrice responsable de ces éditions Lanskin, qui fait un travail énorme et qui a un catalogue de poésie contemporaine assez incroyable. Alors Anna, maintenant nous allons écouter l'une de vos lectures performances. Il s'agit d'un extrait de « Je suis amoureuse », livre qui, comme je le disais, est paru aux éditions Lanskin. Il s'agit d'un enregistrement effectué en octobre 2019 à
la Capelleta de Mousette.
Je ne suis pas amour parce que je suis amour, parce que je ne suis pas amour parce que je suis amour, parce que je m'allonge de tout mon long dans l'humeur des pourtours, dans l'humeur des garrigues, dans l'humeur des cabanes, des bidons, des cartons, dans l'humeur des ergues, dans l'humeur des étangs, des ponts, je m'allonge dans l'humeur des bergeries d'artistes, dans l'humeur des clairs de place, dans la tumeur des strates de plastique, je m'allonge dans l'exil des cœurs qui se sont barrés avec la nudité, parce que la fraîche roulade, loin des pâles îles de raison, parce que le radeau du rythme, parce que parfois, parce que une fois, j'aime autant que je souffle la révolte, j'écris sur ta peau la nuit en faisant gronder ton sang. Je montre du doigt l'étendue où il sort. Je barbote dans une rivière astronomique. Je pisse ma sorcellerie tout en même temps et tout en même temps que tout.
Alors, vous écoutiez mon invitée Anna Serra, jeune poète française née en pays catalan, dans sa lecture performance de « Je suis amoureuse ». Anna, j'ai dit en introduction que vous étiez née en pays catalan. Alors, racontez-nous un peu cette enfance ou ce bilinguisme qui vous permet non seulement d'écrire en catalan, mais aussi de traduire du catalan vers le français.
Alors, j'ai grandi dans un village près de la frontière, donc du côté français, d'une famille maternelle née en Catalogne espagnole. Et dans le village, déjà, il y avait du bilinguisme, comme dans quelques villages du Languedoc-Roussillon. Et surtout, j'avais une vie de frontière. Il y avait beaucoup de musiciens dans le village avec lesquels je me suis socialisée. Il y avait des balles sur les ramblas tous les mardis et jeudis, au printemps et à l'automne. Et donc, j'ai passé mon adolescence à discrètement, avec ceux qui avaient le permis et une voiture, aller de l'autre côté de la frontière pour aller danser. Et donc, mes amis étaient catalans, en fait. Et ensuite, j'ai décidé d'entretenir ce rapport à la langue parce que même si je suis de famille catalane, mes grands-parents sont des exilés de la Retirada. Ils ont appris à se taire dès qu'on ouvre la porte, ils changent de langue. Donc ça a été assez fastidieux de leur faire lâcher prise avec ces habitudes et on a fini par avoir une très longue correspondance avec ma grand-mère de poèmes en catalan. Et ensuite, quand je suis allée vivre en dehors du département, j'ai voulu garder cette corde chantante en traduisant. J'ai découvert la poésie de Maria Mercé Marçal, et j'ai traduit sa première œuvre. Elle avait 22 ans quand elle a écrit Cau de Yunus, Tanière de Lune. Et j'avais 22 ans quand je découvrais son œuvre. Elle était déjà décédée quand je l'ai rencontrée. Et ça a été une aventure que de traduire. Je traduisais déjà un peu de l'italien, des poèmes éparpillés, du catalan. Mais prendre en charge une œuvre, c'était la première fois. C'était une très belle aventure. Je suis retournée en Catalogne pour mener l'enquête un peu sur son catalan, parce qu'il faut savoir qu'il existe autant de catalans que de vallées. Elle aime mettre des mots d'oralité dans ses textes. Donc je suis allée sur son territoire de la Seu d'Urgell vers Lleida, et puis j'ai passé du temps en Catalogne pour faire connaître ses poèmes aux uns aux autres et faire valider ma traduction. Et ça a été publié aux éditions Supernova. Et le catalan, j'ai oublié de le dire, je traduis aussi certains de mes recueils en catalan. Et je prépare même un recueil pour les enfants de poésie en catalan.
Alors moi, j'aimerais qu'on en vienne au livre qui a pour titre « L'absolu de ma machine », lui aussi publié chez Lanskine. Dans ce livre, toutes les lettres O qui composent les mots sont en majuscules. Et là encore, comme un leitmotiv, il y a ce « surtout, surtout ». Pour moi, la manière dont j'ai lu et compris ce livre, il y a une tentative de faire la part des choses entre ce qui est impersonnel, mais qui contribue à la présence de notre être, et que vous voulez connaître, magnifier, et puis ce qui est de l'ordre de l'ego. Qu'est-ce que vous cherchiez dans ce livre, Anna ?
Je crois que ce livre fait partie des livres manifestes, de ces poèmes manifestes que j'ai tendance à écrire, qui sont comme des crises de conscience qui se manifestent dans un poème, comme la fin d'un cycle qui veut se connaître à travers le poème. Et L'absolu de ma machine fait partie de ces interrogations qui ont mûri sur les pouvoirs de la parole, pouvoir alchimique de la parole, les symboles, et aussi cette force, comme vous dites, impersonnelle, qui vient désencombrer l'être et empêcher la rencontre. Et je pense que ce texte parle tout entier de ça. Et quand je dis la rencontre, c'est la rencontre pas seulement avec l'autre ou le sexe opposé. Je parle de la rencontre avec soi et avec tout le vibrant dont on a parlé. Et c'est aussi replacer une sorte de grande histoire aussi de la création, où je m'amuse en fait, enfin je m'amuse sérieusement à ressentir la création de l'univers comme une blessure qui fabrique de l'image. Et je m'interroge sur cette image qui, pour moi, elle est trop facile d'en faire juste une illusion et toute la vérité est dans un arrière-monde. Je préfère ressentir toute l'expérience spirituelle que nous amène l'image quand on la regarde avec son œil imaginal, c'est-à-dire son œil du cœur, son œil symbolique, celui qui sait voir les choses en faisant la part des choses de la matière et de ce qui est projeté sur cette matière. Donc c'est un livre particulièrement philosophique et que j'ai choisi d'organiser en 12 parties, appelant une 13e, mystérieuse. Et chaque séquence, j'appelle ça une séquence, je la numérote, donc il y a 12 séquences, et je les vis dans l'écriture et dans la façon que j'ai de les pulser comme un cercle qui vient s'amplifier l'un sur l'autre. Chaque séquence repasse par la séquence précédente quelque part, mais en l'interrogeant de manière encore différente, comme un cercle qui s'amplifie. Et ça m'est venu de ma pratique du DAF. J'avais un enseignant iranien, complètement inspiré par le soufisme, qui m'expliquait la musique comme un cercle et comme un premier niveau de rythme qu'on installe et sur lequel va se surajouter un rythme qui est le même mais avec des frappes nouvelles et donc une musicalité différente. Et il y a toujours en sous-jacent le premier rythme. Et on monte comme ça en cercle. Et c'est le même cercle, en fait, qui s'amplifie. Et j'ai voulu penser ce poème tout entier de la même manière.
Impressionnant. Je vous rappelle que vous écoutez Les Mots d'Azur, une émission consacrée à la poésie contemporaine, et que ce soir, mon invité est Anna Serra. Nous allons maintenant entendre Anna, nous allons l'entendre performer son texte, un extrait donc de son livre, L'absolu de ma machine.
Je ne parle pas de moi, je parle de mon corps, où s'affine l'échelle, où se fait le voyage, où passe la vibration, où souvent se coince la vibration. Surtout, surtout, je ne parle pas de moi, je parle de mon corps et de comment il fonctionne avec la peine et la joie, puis la peine et la joie avec ce qui les réunit. Et ce qui les réunit avec ce qui est absolu. Je parle de l'ombre qui devient rêve, de mes rêves qui agitent ce qui réunit les contraires. Je parle de ce qui crée les fonctions de ma machine, de l'absolu qu'il y a dans ma machine. Je parle de ce qui fait peur à mon corps. Tant qu'une image se colle à ce que je perçois, je parle de l'image de mes blessures qui se scotchent sur vos figures et qui fait que mon corps a peur de vous, qu'il a mal de vous. Vous ne le savez pas, mais je vous déscotche des images de la figure pour qu'il n'ait plus peur de vous. Et je me déscotche des images de ma figure pour qu'il n'ait plus peur de moi. Je passe ma vie à déscotcher. Car peut-être que la réalité est l'image fabriquée par une blessure cosmique.
Nous venons d'entendre Anna Serra dire un extrait de son livre édité chez Lanskin et intitulé « L'absolu de ma machine ». Alors, les O majuscules, je me suis demandé si c'était des oméga.
Le O, c'est pour moi la lettre de la poésie, puisque c'est l'origine, c'est l'émotion qui passe par le O. Et ce O, c'est l'étonnement, c'est l'émerveillement, c'est la stupeur, ce sont toutes ces émotions qui passent par ce O ou le A. O et A sont pour moi les deux premières ouvertures de rencontre entre soi et le monde, et qui sont pour moi les deux lettres de la poésie.
Est-ce qu'elles ont des couleurs ? Comme chez Rimbaud.
Ah oui, le poème des voyelles. Elles ont toutes les couleurs, oui. Ouais, elles peuvent prendre toutes les couleurs, mais je n'attribuerai pas une couleur à chaque voyelle, là, comme ça. Mais tout correspond, et c'est ce que dit l'absolu de ma machine. Tout est en correspondance, et tout est fréquence, en fait. Donc, les couleurs, les sons, les différents niveaux de matière, tout correspond, tout est une vitesse de lumière.
Une longueur d'onde, donc. Avec les deux extraits que vous avez entendus, chers auditeurs, vous avez certainement noté qu'Anna Serra, mon invitée de ce soir, procède assez souvent par répétition. Elle martèle. Elle avance logiquement, méthodiquement, à la fois par addition et par soustraction, ce qui provoque un effet d'accumulation. Moi, ce qui m'intéresse, Anna, c'est comment avez-vous abouti à ce style qui est le vôtre ? Est-ce dû à un rythme interne, biologique, propre à votre respiration et au développement de vos pensées, ressentis ? Est-ce quelque chose qui s'impose à vous, ou bien est-ce quelque chose que vous peaufinez après plusieurs stades de maturation du texte ?
Merci pour cette question encore. Ces répétitions et ce martèlement appartiennent particulièrement au texte que j'appelais tout à l'heure « poème manifeste ». C'est quand tout d'un coup quelque chose a été maturé, une forme de conscience qui veut sa manifestation par le poème, qui révèle le cycle de maturation. Et ce martèlement, il vient parce que je vais dans l'expérience du poème, j'y vais, je m'arrête pas. Et d'avoir un leitmotiv, c'est-à-dire un motif comme ça qui va revenir souvent, me permet mon arborescence. C'est-à-dire je reviens au tronc et je pars. Je reviens au tronc et je pars. Je reviens au tronc et je pars. Et c'est comme avancer en faisant l'arbre. Et ça permet en plus une circularité. En revenant à une répétition, on crée un cercle. Voilà. Et j'ai à cœur la géométrie dans le poème. Il y a des formes de lignes qui se tracent si on est attentif en plaçant les mots dans un certain ordre. Et la répétition, en tout cas, permet le cercle. Et ce que j'adore, la répétition-variation. Quand quelque chose se répète, mais va varier légèrement. Et ce qui crée une attention, une captation avec le lecteur ou la lectrice. Quand j'avance comme ça en improvisation, comme tout d'un coup la conscience veut la manifestation de la fin d'un de ces cycles, j'ai besoin de cette répétition. Elle est organique. Elle est organique et je pense qu'elle correspond aussi, parce que quelque part je le pulse déjà très fort en moi au moment où je vais dans l'expérience du poème, ça correspond à cette idée que pour moi, je plante toujours un poème. C'est-à-dire que pulser un poème, c'est aussi le planter. Et ce martèlement, qui est le retour au tronc, me permet de creuser, d'enfoncer, en enfonçant évidemment, de croître, et d'être dans cette sensation de planter. Voilà. La répétition, c'est aussi ça, pour moi.
Et donc, si on plante, et qu'il y a un tronc, on est quand même aussi dans la dimension du vertical.
Oui, du vertical et l'enracinement qui trace. On dit que les racines peuvent être traçantes ou pivotantes. Et là, quelque part, dans mon poème, elles sont les deux. J'aime creuser la pensée, j'aime l'élever, j'aime les niveaux de profondeur. Et en même temps, il y a cette horizontalité de l'arbre qui fait ombre sur les corps qui se reposent, ou qui vient nourrir ceux qui ont faim. Et donc, on est dans la croix. Et c'est un symbole qui est hyper important pour moi dans chaque poème. Cette croix, c'est vraiment l'ouverture du cœur déjà. Et c'est aller faire l'arbre en fait. Et je crois vraiment, en tout cas pour moi, que j'apprends tous les jours à faire l'arbre en fait.
Eh bien, vous avez raison, on a besoin d'oxygène, Anna. La tradition veut que dans cette émission, mon invité choisisse une musique ou une chanson afin de la faire entendre aux auditeurs. Partager quelque chose qui a une signification pour vous, qui vous accompagne pendant l'écriture, par exemple. Quel serait votre choix, Anna, et pourquoi ?
Ah, j'ai plein de choses qui se bousculent. Alors, il y a Ariane Savall, qui est une chanteuse-compositrice catalane. Pourquoi ce choix ? Parce que là, c'est dernièrement ce que j'écoutais. J'écoute des choses très, très différentes, mais j'aime bien plonger dans les chants traditionnels. Pas seulement, hein, du tout, mais là, c'est ce qui me vient. C'est ma langue maternelle qui chante. C'est ce timbre de voix plein de lumière. Oui, ça me ramène tous les paysages de l'enfance et cette force particulière que j'ai trouvée en Catalogne aussi. Une façon d'habiter, qui est de penser le collectif, de se défendre dans sa particularité. Cette langue me donne beaucoup de force. Et de l'entendre chanter par Ariane Savall, ça me renvoie à la douceur d'une force qui brille depuis longtemps. Je ne suis pas du tout dans un nationalisme ou quoi que ce soit. Je reconnais juste un endroit qui brille d'une certaine manière, qui défend une langue dans son insaisissable.
Nous allons donc écouter la chanson de Ariane Savall, « Aquest camí tan fi ».
Oh, la sera d'Algusà, rossa l'ingrata, o bé un camí d'enamorat colgat de mata. És un recé per adormir qui faci pena, qui faci pena.
D'entendre la chanson de Ariana Savai, A Quest Coming Tante Fee, le choix de mon invité Anna Serra, et la chanson dit ce chemin-là si fin, si fin, qui sait où il mène, est-ce à la ville ou bien au pin de la crête, un iris des jardins couleur du ciel dit viens, viens, et ça finit par qui sait s'il peut mourir soudainement sous le feuillage? Qui saura un jour ce chemin-là, à quoi il me convie? Et c'est un chemin incertain, chaque chemin, il en est chaque vie. Voilà, Ariana Savai, une vraie découverte pour nos auditeurs, j'en suis certaine, merci Anna. Alors il me semble que pour aborder les thèmes comme vous les abordez, un minimum de lecture philosophique, à caractère spirituel aussi, sont éclairantes. Alors, d'où cette autre question relative à la cuisine de l'écriture. Est-ce que lorsque vous sentez que vous abordez un thème, soit de réflexion, soit scientifique, vous vous lancez dans des recherches, ou bien ne faites-vous confiance qu'à votre instinct, vos sens, votre intuition? Ou alors, le fait de vous intéresser à un sujet comme, disons, le chamanisme, vous pousse à faire des recherches grâce auxquelles ensuite vous écrivez, en croisant avec votre expérience empirique?
Alors, je suis vraiment une chercheuse. J'adore étudier depuis toujours, ça s'est jamais arrêté. J'aime aller dans la philo, j'aime aller dans les sciences, dans l'astrophysique. Par contre, quand j'écris, je fais confiance. Je laisse maturer, comme je disais. Et si le texte le demande, pourquoi pas aller approfondir certaines choses que j'évoque, mais dans un souci de le donner mieux. Je ne crée pas des résumés de recherche, c'est pas ça du tout. La recherche, c'est quelque chose qui nourrit un mode de connaissance chez moi. Et le poème est un autre mode de connaissance qui est stimulé, alimenté par tout un vocabulaire de recherche qui vient ouvrir des endroits de l'être. On m'a souvent dit après une performance, si j'étais chamane, on me le dit dans mon existence très souvent, je me suis intéressée à ça que très tardivement. La première fois qu'on m'a dit le mot, je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'étais jeune. Puis la poésie, pour moi, a un caractère éminemment chamanique. Donc à partir du moment où quelqu'un lit un poème, il est dans un dialogue avec le vivant et le vibrant. Et pour moi, ça, c'est une pratique de communication qui n'appartient pas que au chamanisme. Mais voilà. On m'a offert le chamanisme de Mircea Eliade, bien sûr. Et j'ai commencé à m'y intéresser parce que j'étais un peu dans un refus de mode. On m'a proposé tellement de choses pour aller plus loin. Mais je ne ressentais pas ce besoin d'aller plus loin artificiellement par ni du tambour, ni des substances. Ou voilà, toutes ces modifications de conscience, je les avais par la poésie et les rêves et un rapport à la vie, à la sensation. J'ai pu en savoir un peu plus quand même sur une forme de tradition, en tout cas en Sibérie, grâce à ce livre. Mais ce n'est pas venu modifier quoi que ce soit, ni dans mes thèmes, ni dans ma façon de pulser. Par contre, ça m'a permis de me relier à une lignée, de me relier à des forces qui ne doivent pas se perdre, de comprendre à quel point une énorme part de nos expériences est trop secondaire. Toutes ces expériences qu'on fait, qu'on n'explique pas, qui se passent au niveau de ce qu'on dit être l'âme, sans savoir ce qu'est l'âme, et que dans ces peuples-là, c'était pas secondaire. C'est vrai que de me documenter m'a permis de donner peut-être encore plus de crédit à toutes ces expériences. Voilà.
Je voudrais maintenant qu'on écoute, donc vous, Anna Serra, dire un extrait de Claire Caresse. Alors vous allez le dire en catalan.
Claire Caricia.
Encore un ouvrage, et cette fois bilingue français-catalan, paru aux éditions Lanskin. Un enregistrement effectué au prieuré de Serra Bona, et nous allons écouter cette lecture en catalan pour entendre les sonorités de cette langue.
Alors, enarbulat par la vision dels lleus, i excavat per la pluja diluviana, el meu cor embriac d'essa que sa grana vital segueixi els ser reals, lliscant de fetge en fetge fins al riu. Segur que el gaig la retornarà amb intimitat o la depositarà dins el pau de gel. Mon cor ell quedarà en la mà, que va servir a mesurar cada racó de Serra Bona, la que conté totes les mesures de Serra Bona. Una mà que l'embruixa, una mà que fa voltes, un lloc de mà voltada per les pedres copsades. L'encant del lloc surt d'una mà, una mà d'atenció. De les longituds d'una mà surten voltes. El lloc és embruixat per una mà. Una mà feu voltes en el lloc. Totes les voltes són de mans d'una mà. Una mà fa voltes, una mà embruixadora. Una mà s'amaga a dintre les voltes. Una mà com la nostra. Una mà de milers de polzes. Com una mica. Una mà d'un poc. Una mà de pas. Una mà compàs. Una passió que s'equilibra. Tot s'embruixant en l'extensió.
Vous venez d'entendre Anna Serra dire un extrait de son livre intitulé « Claire Caresse ». Alors Anna, vous allez nous parler un petit peu de ce livre, de sa genèse.
Je précise juste que cette traduction a été faite par Colette Planas, même si on était deux. La traduction me permet d'avoir des interlocuteurs et des interlocutrices catalans et catalanes. Donc merci Colette Planas, poète aussi, également. J'avais l'envie de traduire Ausias Marc, le premier poète au Moyen-Âge qui écrit en catalan. Et je me suis dit qu'il me fallait un contexte pour faire cette recherche de traduction. Et j'ai postulé pour être guide au prieuré roman de Serra Bona, dans le Languedoc-Roussillon. C'est un prieuré à 13 km de virage après le dernier village, à 600 mètres d'altitude entre la mer et des crêtes 600 mètres au-dessus. Je n'en connaissais pas particulièrement l'histoire. J'ai fait des études en histoire médiévale. J'ai des clés de compréhension de cette époque. mais je me retrouve véritablement plongée dans son histoire pour pouvoir guider les visiteurs, visiteuses. J'y allais en vivant dans ma petite fourgonnette parce qu'il fallait aller faire les 13 km de virage pour arriver au premier village, pas forcément dans un chez-moi. Et les collègues l'ont vu et m'ont demandé « Mais où habites-tu » pour faire les allers-retours comme ça. Ils ont fini par me donner la clé. Ce qui est complètement illégal, je n'ai absolument pas le droit de dormir, de passer du temps en dehors des visites dans le prieuré. Mais la vie a fait que ça m'a été possible. C'est un lieu qui appartient au département maintenant. Et il n'y a absolument rien pour dormir. Hein. C'est juste qu'il y a le bureau d'accueil où je peux brancher une bouilloire et un téléphone. Hein. Et il y a des toilettes, voilà. Et donc je dormais sur un tapis de gym dans le cloître. C'est un demi-cloître, hein. C'est-à-dire qu'il y a un escarpement qui fait que le cloître n'est pas complet. Et donc je dormais quasiment au bord... Oui, on appelle ça un précipice, c'est un éperon rocheux, quoi. Avec les chauves-souris qui me passaient dessus et qui donnaient l'impression que quelqu'un marchait dans le prieuré, parce que comme elles font bouger la poussière des plafonds, ça fait comme des pas. C'est très impressionnant, j'ai adoré. Et puis j'ai exploré les sculptures romanes à la bougie. Et là, on rencontre complètement différemment cet art. On voit d'abord une aile, un pied, une main, un visage... Ça nous donne tout le rythme de la rencontre. J'ai vraiment passé beaucoup de temps avec les lions ailés, les griffons, la grenouille couronnée, le cerf transpercé d'une flèche, le petit personnage qui serait une sorte de Gilgamesh ou de héros oriental, le pendu, le singe qui semble accoucher de la tête d'un homme ou écraser la tête d'un homme, les fleurs, toutes sortes de fleurs qui rayonnent, qui spiralent. Et j'ai même découvert des choses. Et je me suis régalée à retranscrire la voix de tous ces personnages à travers une petite pièce de théâtre qui est à la fin du recueil et qui s'appelle « Les voix du bain » et qui fait dialoguer le visiteur avec l'aigle, les lions qui se mangent, les lions qui s'embrassent. Et j'ai essayé de faire parler cette forêt de symboles et à lui donner... un sens à la fois de quête d'humour et de rencontre avec tout ce qui est à l'intérieur de nous. Tout ce bestiaire est vraiment une cosmogonie de notre intériorité. L'extériorisant permet de la réintégrer. Et j'ai vraiment appris ce qu'était la géométrie sacrée. J'ai fait des liens avec la Mésopotamie, avec même des arts encore plus anciens. On appelle ça les lions affrontés, qui se font dos à dos. Ça viendrait d'encore plus loin que l'époque sumérienne. Donc j'ai vraiment voyagé. En plus, tous les matins, j'étais réveillée par le vent, la lumière, et j'allais dire bonjour aux vautours. Je redescendais, j'accueillais les gens, je faisais la visite, je terminais toujours avec un poème, et j'ai fini par en mettre beaucoup, des poèmes. Je glanais un peu de René Char, un peu d'Artaud, qui était à propos. Puis des fois, je faisais des liens avec mes rêves du soir... C'était une aventure qui me marquera à vie d'avoir été suspendue entre terre et ciel et d'avoir dormi sur le schiste. Ouais.
En tout cas, je pense que les gens qui faisaient la visite avec vous ont certainement pensé que vous n'étiez pas un guide tout à fait ordinaire.
J'ai eu un surnom qui était la chanoinesse de la jubilation. Parce que c'était un lieu qui accueillait des chanoines, chanoinesses de Saint-Augustin. Et les gens ramenaient leurs amis et ils m'appelaient la chanoinesse de la jubilation parce que j'étais particulièrement heureuse. Je pense qu'on est sur un flux d'énergie, de magnétisme très fort. À un moment donné, là, je pense qu'il fallait même que je me calme. Il y avait un enthousiasme merveilleux où je pouvais raconter l'histoire et être en poésie. Et l'histoire donnait de la force et de la compréhension à la poésie. Et donc, il y avait une sorte de complétude là, qui était juste voilà, merveilleuse.
Je voudrais qu'on parle de votre dernier livre, « Dans ce combat ». On y retrouve les préoccupations du sensoriel, du spirituel, du vivant, de l'humain. Dans ce recueil, vous posez des choses fortes qui peuvent paraître énigmatiques aussi. Des affirmations comme « J'abandonne le caméléon de ma langue à notre esclavage ». « J'abandonne ma langue au grand combat pour qu'il soit le grand secret ». Ce sont des formules quasi oraculaires. J'ai aussi retenu ceci qui, je crois, résume bien votre démarche. Je ne suis pas contre la violence. Je dirais même que je l'aime, mais je l'aime d'en haut. Je ne l'aime pas avec mon corps, je l'aime avec l'esprit de ma langue qui le contient. Et vous poursuivez. La violence, je la reçois en plein corps, mais je l'aime d'en haut avec le sommet de ma langue, avec la danse de ma langue. L'ascension vers la cime est une ronde. Alors Anna, je me suis demandé si ce livre n'était pas finalement l'aboutissement de votre cheminement en poésie jusqu'à aujourd'hui.
Oh, alors je précise juste qu'il est publié aux éditions Supernova. L'aboutissement, alors je me dis toujours que je n'ai pas commencé d'écrire, parce qu'à chaque fois, chaque texte me fait me déplacer intérieurement. C'est un voyage pour moi d'abord, donc il va plus loin, j'espère. Après, est-ce que c'est l'aboutissement ? C'est vrai que je rassemble beaucoup de choses que j'ai expérimentées à travers plusieurs recueils. C'est vrai que j'y ose une langue lunaire et les pouvoirs d'opacité de la langue qui parlent à l'inconscient. C'est vrai que j'y rassemble mon goût des numéros, puisque je numérote chaque poème comme une séquence qui correspond aux phases de la lune. C'est vrai que je pousse plus loin l'idée d'un poème rituel. En tout cas, j'y ose plus de choses. J'y ose plus de choses parce que je partage beaucoup plus ce qui m'habite, la question des cycles, la question du vivant et comment on appartient à ce mouvement du vivant, puisque je parle du cycle lunaire, mais aussi des menstruations. J'y parle de cette façon d'entreprendre une voie vers la paix, qui passe par l'acceptation de son potentiel de violence, qui correspond à un potentiel de désir. Et je suis peut-être, oui, allée plus loin dans le partage de mon lieu. De mon lieu d'interrogation, oui.
On va donc écouter un extrait de ce texte. Il s'agit d'un enregistrement effectué à Bagnolet le 10 septembre 2023 pour le festival Poetic Waves.
La violence, je la reçois en plein corps. Mais je l'aime d'en haut, avec le sommet de ma langue, avec la danse de ma langue. L'ascension vers sa cime est une ronde sacrifiant des sensations aux animaux et sympathique langue lige du sort. Elle sait les figures pour me sortir vive de la violence. Ma langue est une danse combat. Qui remonte l'orme des pampres de la langue, qui parcourt son esprit et s'accroche au baiser, de l'obscurité se contemplant et de la clarté s'oubliant. Un oui, ha ! Les forces guerrières de la sagesse viennent à la lutte que s'il y a l'éclat de poignard dans les levées héliaques du baudrier du barde miraculé. Tous les cris s'échappant en cambrure de cygnes, leur halo dans tous les lacs lâchés dans la lys, les axiomes alliés déterrés par le romarin, la sauge fumant dans la faune du fracas des vies rattrapées par un brin à brandir. Jusqu'à la prononciation dérobée et le relâcher de crypte dans le cathédrale du bas-ventre choral au réveil de l'eau en l'air par la langue focale. Vienne la paix, la base active du combat. Tout le combat et l'évasement de la paix, l'eau frôlée.
Vous venez d'entendre Anna Serra qui disait un texte extrait de son livre intitulé « Dans ce combat » et voici la présentation de ce livre paru en 2023. Anna Serra explore la totalité de son être par l'écriture, se transfigure, approfondit la sensualité du corps univers, laissant émerger des questions. Le poème « Danse combat » est né d'une lutte à tout niveau. Le corps et sa maladie, le corps et son milieu, le corps au milieu des corps en lutte et le corps repoussant son propre enfermement. Le texte accueille les questions de la poète sur la violence, la refuser, lui obéir, la refouler, la transfigurer. Dans ce combat est arrivé comme une main vitale pour clarifier l'être. Le poème répond par la danse relancée, nouvelle sous chaque lune et marquée par le mythe du démembrement avant l'arrivée de l'éclat. C'est l'histoire d'Osiris, d'Orphée ou du Christ et l'allusion au récit initiatique de descente aux enfers. Où peut se trouver la perte, qui arrive en filigrane de cette danse du verbe sanguin qui se donne à la nature, à son secret de régénération. Inspiré de la pratique des danses guerrières présente dans la plupart des sociétés humaines, le texte a permis à Anna Serra de creuser cette sagesse propre aux arts du combat. Verbe vital pour faire circuler l'énergie de la révolte, faire circuler par la danse combat du verbe, révolte aux côtés des combats partout dans le monde, s'affirmant dans sa propre maison. Ce poème est l'expérience d'un entre-là aux forces de la nature. Il en fait ressentir la violence comme inhérente au désir qui enracine et fait de celle-ci un cadeau par la maîtrise magique du cri lunaire. Anna Serra n'a pas fait le choix de la poésie et sa vie lui ressemble tant, son œuvre, elle, sa vie. Alors, est-ce que c'est vous qui avez écrit ce commentaire ou c'est l'éditrice, l'éditeur ? Et comment vous réagissez à cette description, en quelque sorte ?
Alors, j'ai participé à l'écriture de cette présentation grâce à un dialogue avec l'éditrice, puisqu'on a vraiment lu ce texte à voix haute toutes les deux. Ça nous a permis de discuter et de faire émerger des présentations de ce texte. Par contre, c'est bien elle qui a rajouté « Anna Serra n'a pas fait le choix de la poésie et sa vie lui ressemble tant son œuvre et sa vie ». Ça, c'est tout à fait Stéphanie Boubli qui a un regard vraiment au plus près de mon aventure de poète. Quand j'ai vu cet ajout, oui, j'ai été touchée parce que ça fait du bien d'être vue, en fait, à son endroit, et de ne pas aller le signaler, et de laisser les choses s'incarner et vibrer et rayonner, et de voir que ça passe, que voilà, ça passe. Et je pense que la poésie, pour moi, c'est vraiment une façon de faire des choix, en fait. Donc, c'est la vie, voilà.
Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive maintenant à la fin de cette émission. Donc, vous remercier vraiment chaleureusement de m'avoir accordé cet entretien. Je suis certaine que les auditeurs auront apprécié votre générosité. Vous ne le voyez pas, mais Anna est une personne rayonnante, solaire. Je ne vais pas me priver néanmoins de vous laisser le dernier mot, Anna.
Mon ambition, c'est de te dire qu'on ne sait pas. Mon ambition, c'est de te passionner en te disant tout ce que je ne sais pas. Mon ambition, c'est de soutenir. C'est d'être le soutien même. Je soutiens ma joie. Ma joie est un fondement.
Eh bien, comme le dit si bien Anna Serra, que la joie soit votre fondement, chers auditeurs. C'était Les Mots d'Azur, une émission réalisée par Béatrice Maché. Je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel invité pour une exploration toujours plus en profondeur du paysage de la poésie contemporaine francophone. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir.